Vous avez la parole.
Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Pierre Pinto.
Et bienvenue si vous nous rejoignez dans cette seconde partie d'appel sur l'actualité. Ces derniers jours ont encore été la triste illustration Boko Haram, ou plutôt, comme le mouvement se fait désormais appeler, l'État islamique en Afrique de l'Ouest a encore durement frappé. Deux attentats à 3 jours d'intervalle à Maroua, dans le nord du Cameroun. Une nouvelle attaque hier à Damaturu, au Nigeria. Des attaques suicides ou des bombes placées sur des fillettes, ou comme à Damaturu notamment, sur une femme connue pour ses troubles psychiatriques et déclenchée à distance, ou de véritables attaques kamikazes d'ailleurs par des hommes déguisés en femmes souvent. Cette méthode des attentats est en tout cas de plus en plus privilégiée par les djihadistes de Boko Haram, et tous les pays du bassin du lac Tchad sont désormais quotidiennement concernés, Nigeria bien sûr, mais aussi Tchad, Cameroun et Niger. Alors comment lutter efficacement contre Boko Haram et sa stratégie de terreur, alors que la force multinationale conjointe de 8700 hommes est censée être opérationnelle à la fin du mois? Que pensez-vous des stratégies adoptées par ces pays? Faut-il attendre du changement dans ce domaine avec l'arrivée de Muhammadu Buhari à la présidence du Nigeria? Que pensez-vous des mesures qui ont été prises dans les pays concernés? Sont-elles suffisantes? Le débat est ouvert. Vous avez la parole. Appelez-nous au 33 9 693 693 70 09 693 693 70 et sans plus attendre, direction le Standard où nous attend Alassane. Bonjour Alassane.
Oui, bonjour Claire.
Vous nous appelez d'Agadez au Niger, et pour vous, il est impératif que tous ces pays du lac Tchad, du bassin du lac Tchad que je viens de citer, mutualisent leurs forces.
Effectivement, parce que la mutualisation des forces et surtout la confiance réciproque entre les États est plus qu'impérative. Parce que quand vous considérez ce qui se passe à la frontière au Cameroun, qui est voisin du Nigeria, effectivement, il est très nécessaire qu'il y ait une plus grande collaboration des forces armées nigériennes et camerounaises pour sécuriser la zone.
Alors et la force multinationale conjointe doit être opérationnelle à la fin du mois, c'est-à-dire là, dans quelques jours. Vous en attendez beaucoup, vous, de cette force?
Je n'attends pas beaucoup parce que, partant de l'expérience de la RDC, vous avez vu qu'il y a un des plus grands contingents au monde des forces des Nations Unies. Vous avez vu qu'elles n'ont pas été efficaces contre les FDLR. Il a fallu que les forces régulières du Congo combattent les FDLR jusqu'à les anéantir.
Mais donc ne sont pas des casques bleus. C'est une force militaire proprement dite, une force conjointe entre tous les pays qui ont à lutter contre Boko Haram.
Mais dès lors qu'elle va fonctionner sur le clos des Nations Unies, je pense qu'elle ne sera pas efficace. Or, ce qui se passe dans la zone, c'est qu'il faut une véritable sécurisation du lac Tchad, voyez-vous, dans la zone. Et puis une véritable sécurisation des frontières entre le Cameroun et le Nigeria. Vous le savez, il y a la Centrafrique qui est à côté et qui constitue un véritable foyer de tension depuis des années, voyez-vous. Il y avait des bandits qui opèrent dans la zone depuis des années, qui ont juste profité de cette nébuleuse pour se reconvertir, si vous voulez, dans le grand banditisme. Donc voilà, en fait, je crois beaucoup à une mutualisation des efforts, des moyens, parce qu'en fait, cette nébuleuse pose un problème d'abord de souveraineté.
Et il faudrait que les grandes puissances étrangères aident aussi ces pays-là?
Bon, là, vous avez suivi le peu de nez des Américains à l'encontre de Buhari, qui n'a pas pu obtenir de drones de surveillance. Or, le véritable problème de cette nébuleuse, c'est tout d'abord au Nigeria. Il faut que le Nigeria fasse de grands efforts et ait les moyens nécessaires pour pouvoir mener le combat jusqu'au dernier retranchement de ces insurgés, parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Malheureusement, vous avez vu la dernière fois que Buhari était aux États-Unis, il n'a pas pu avoir les drones dont il avait besoin de surveillance pour pouvoir mieux suivre les mouvements de ces insurgés-là. Voyez-vous, quelque part, il y a deux poids, deux mesures. Et certains pays qui sont censés nous apporter quand même de l'aide. Or, on a vu avec la Libye, on a fourni des avions, des drones pour traquer et assassiner Kadhafi. Et quand il s'agit aussi de fournir des drones de surveillance pour mettre hors d'état de nuire des insurgés, en tout cas qui sèment la terreur sur leur passage, ben, vous, c'est un problème. Et là, vraiment, ça fait deux poids, deux mesures.
C'est-à-dire que les États-Unis n'ont pas véritablement, selon vous, de volonté politique de soutenir militairement le Nigeria ?
Oui, là, les États-Unis, et même dans une certaine mesure, là, je me pose des questions aussi sur la force Barkhane qui opère dans la zone et qui est censée apporter aussi des aides logistiques, entre autres, n'est-ce pas, pour lutter efficacement contre ces insurgés. Là encore, on se pose des questions véritablement sur le rôle qu'ils peuvent jouer pour être efficaces.
Restez avec nous, Alassane, je voudrais qu'on accueille Abderrahman qui est en ligne avec nous. Abderrahman, bonjour.
Oui, bonjour Pierre Pinto, bonjour à tous les auditeurs de Radio France Internationale.
Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la stratégie actuelle contre Boko Haram, et notamment de la position, de la posture du Nigeria ?
Exactement, ouais. Et Pierre, je pense que tout le problème vient du Nigeria. C'est, moi, à mon avis, c'est le Nigeria qui ne joue pas le jeu. Et depuis le lancement depuis les opérations de Boko Haram et jusqu'à maintenant, le Nigeria ne joue pas le jeu. Et Pierre, et l'armée tchadienne et l'armée camerounaise se sont battues comme il faut. Ils ont fait ce que l'armée nigérienne n'a pas fait jusqu'à présent, mais je pense que la solution politique, la coordination politique n'y est pas. Le Nigeria ne joue pas le jeu parce que... Et prenons un exemple.
C'est vrai, Abderrahman, que pendant des années, les voisins du Nigeria, Tchad, Cameroun, Niger, critiquaient le président Goodluck Jonathan pour son inaction face à Boko Haram. Est-ce que selon vous, l'élection de Muhammadu Buhari au printemps dernier n'a rien changé ou il n'y a rien à en attendre ?
Non, moi je crois que ça n'a rien changé jusqu'à présent. Ce n'est pas pour critiquer le président et Buhari qui vient d'arriver, mais moi je pense que jusqu'à présent ça n'a rien changé, c'est la même politique qui continue. Et parce que quand on a vu que la ville de Fotokol a été libérée par l'armée tchadienne vaillamment et l'armée tchadienne a tout fait pour que les Nigériens viennent prendre le relais, n'ont pas fait. Donc et cette ville a été réoccupée encore par Boko Haram. Moi je pense que là il y a un problème politique est là, parce que je pense que le Nigeria se méfie de son voisin camerounais, et là à ce moment-là il faut éviter ça, parce que le Cameroun aujourd'hui est contaminé par cette nébuleuse, et ça risque de contaminer toute la sous-région. Donc il faut que vraiment le Nigeria joue le jeu, que politiquement le Nigeria, la solution du problème se trouve au Nigeria. Ce n'est pas de l'argent que le Nigeria a besoin aujourd'hui de la part des États-Unis, 1 million ou 2 millions de dollars. Le Nigeria est suffisamment riche, suffisamment puissant pour lutter contre cette nébuleuse s'il n'y a pas de complicité interne même au Nigeria.
Manque de volonté, voire complicité, vous dites.
Exactement, complicité politique, complicité militaire. Parce que certains chefs militaires du Nigeria, et quand on voit, ne se battent pas contre Boko Haram.
Alors Muhammadu Buhari, il y a deux semaines environ, a limogé l'ensemble des hauts cadres de son armée.
Oui, c'est un bon début. Moi, je veux que lui-même, la volonté politique, qu'il donne l'autorisation à l'armée tchadienne et à l'armée et camerounaise de poursuivre ces bandits-là, ces terroristes-là qui sillonnent toute la sous-région. Vraiment, il peut avoir le Nigeria, je vous l'ai dit, Pierre, quand on voit comment les Nigériens se sont battus au Liberia et à Sierra Leone, et qu'aujourd'hui, le Nigeria n'arrive pas à résoudre un problème sur son territoire, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une complicité politique et une complicité et militaire.
Merci Abderrahman. 33 9 693 693 70, retour au standard où nous attend Albert en ligne de Yaoundé. Bonjour Albert, vous êtes là ?
Bonjour Pierre, bonjour.
Alors vous dites que ces pays du lac Tchad aujourd'hui payent leur désunion. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Mais ça veut tout simplement dire, et le précédent auditeur l'a noté, ça veut tout simplement dire que les pays de la commission du bassin du lac Tchad n'ont pas mutualisé leurs forces assez tôt, au moment où il fallait combattre Boko Haram et l'éradiquer. Et bon, le précédent l'a dit, le Nigeria peut-être n'a pas voulu, mais sans cette mutualisation des forces, on ne peut pas éradiquer la secte. Elle agit partout dans la zone.
Alors vous croyez, vous, à cette force multinationale conjointe qui est censée être opérationnelle dans quelques jours?
La force est utile, elle est nécessaire, je dirais à la limite indispensable. Mais il faut encore que cette force ait la possibilité d'entrer au Nigeria, d'aller combattre Boko Haram dans ses propres bases. Parce que ça ne sert à rien de mettre des bataillons de force au niveau des frontières et empêcher à Boko Haram de rentrer soit au Tchad, soit au Cameroun, soit au Niger. Mais non, il faut éradiquer complètement la secte. Et pour l'éradiquer, il faut aller sur ses bases au Nigeria.
Alors vous avez dit à l'équipe hors antenne que face à Boko Haram, il fallait adapter la lutte et notamment combattre l'endoctrinement. Concrètement, quelle forme ça doit prendre, cette lutte contre l'endoctrinement que vous décriviez?
Oui, Pierre, cette lutte contre l'endoctrinement devrait d'abord prendre la forme du renseignement militaire, du renseignement sécuritaire. Ces jeunes filles, ces hommes qui se font sauter, ils sont endoctrinés quelque part. Ils sont endoctrinés dans un lieu. Et ça, c'est le renseignement militaire, le renseignement sécuritaire qui doit pouvoir retrouver cette base. Et par la suite, combattre ces prêtres ou, je sais pas moi, imams ou ces formateurs-là, de manière à ce que qu'il n'y ait plus de gens formés pour aller se faire sauter dans les lieux publics ou dans les au sein des groupes de personnes. Et par la suite, bon, la sécurité de chacun, commençant par lui-même, il faut que nous-mêmes, habitants de la zone, que nous soyons vigilants.
C'est-à-dire, cette vigilance doit prendre quelle forme?
Ah, mais cette vigilance doit prendre une forme aussi, à la limite, je ne dirais pas bête, mais je dirais aussi simple que regarder autour de soi. Regardez comment les gens se comportent. Je lisais sur un réseau social vendredi passé, il y a des messages de vigilance qui sont passés aux populations pour dire regardez comment se comportent les gens autour de vous, regardez comment ils sont habillés, regardez ce qu'ils ont. Mais cela est nécessaire. Nous sommes les premiers responsables de notre propre sécurité.
Restez avec nous, Albert. Je voudrais qu'on accueille un de vos compatriotes en ligne de Douala. Arnold, bonjour.
Bonjour, directeur de RFI.
Vous aussi, vous êtes partisan de la vigilance, mais vous souhaitez, vous dites qu'il faut aller plus loin, d'ailleurs c'est déjà le cas, que les dénonciations sont utiles.
Voilà, effectivement, les dénonciations sont très utiles parce que il faut vraiment une collaboration entre les forces armées et les populations locales. Il faut que les populations collaborent en dénonçant tout acte suspect, toute personne qui trouve suspect aux forces de l'ordre pour que cette personne soit éventuellement mise en examen et peut-être ça aidera à régler le problème.
Mais est-ce qu'on ne risque pas de tomber dans une espèce de psychose avec de voir des règlements de compte entre personnes s'opérer à la faveur de ces dénonciations, de tomber vraiment dans un climat détestable?
C'est possible, mais déjà, je pense qu'il y a déjà une certaine psychose qui s'est installée au sein de la population du Nord. Parce que elles savent qu'elles ne sont pas en sécurité, elles savent qu'à tout moment, une bombe peut exploser, à tout moment, elles peuvent être attaquées. Donc il y a déjà cette psychose-là qui est présente. Bon, les règlements de compte, dans ce genre de cas, ça ne manque jamais, ça peut y arriver. Mais je pense que la dénonciation, elle est utile pour un début.
Albert,
déjà.
Albert, vous êtes toujours avec nous?
Oui.
Comment vous réagissez quand vous entendez Arnold dire que ces dénonciations sont très utiles?
Oui, mais je crois qu'Arnold a raison. Comme je vous disais tout à l'heure, Pierre, le premier agent de ma sécurité, c'est moi-même. Donc, je ne vois pas comment, si j'ai un enfant, moi-même, je dois d'abord constater comment mon enfant se comporte. Si jamais il dévie vers des comportements extrémistes, c'est à moi de l'observer en premier. Et quand je le constate, il faut que je le dénonce. On ne peut pas agir autrement, Pierre. Si vous ne le faites pas, mais il fera sauter des gens.
Mmh. Mmh. Au risque donc de renoncer à un certain nombre de libertés individuelles, alors.
C'est inévitable, Pierre, entre vivre dans l'insécurité et renoncer à certaines libertés, je préfère renoncer à certaines libertés.
Merci, Albert. Arnold, vous souhaitiez peut-être ajouter quelque chose. Est-ce qu'à Douala, par exemple, au sud, dans le sud du Cameroun, est-ce qu'à Douala, cette psychose Boko Haram est palpable?
Oui, déjà, il y a les populations ont très peur, surtout quand ils sont dans des milieux très peuplés, par exemple les églises, les marchés. On ne sait pas vraiment à quel moment on peut être attaqué. Donc, les populations sont déjà en alerte. Elles essaient de faire de leur possible pour être en sécurité. Mais cette psychose est déjà présente dans tout le pays, en fait.
Merci, Arnold. 33 9 693 693 70, retour au standard. Ou bienvenue, nous appelle de N'Djamena également. Bonjour, bienvenue.
Oui, bonjour Pierre.
Vous dénoncez de votre côté une police pas très légitime et une corruption un peu trop forte, ce qui pénalise tout cela un peu la lutte contre Boko Haram.
Oui, à mon avis, je pense que les mesures prises par le gouvernement sont pratiquement suffisantes, mais le problème c'est que la police qui est censée lutter contre Boko Haram et les autres groupes terroristes elle n'est pas assez légitime au vu des dernières bavures policières que nous avons vues récemment avec la grève ou bien les manifestations des élèves et étudiants dans la ville de N'Djamena et ailleurs aussi. Et je pense que la police a beaucoup, beaucoup besoin du soutien de la population et de son aide également pour faire son travail. Malheureusement, elle n'a pas ce soutien-là ou bien... il y a beaucoup de réticence de la part de la population.
C'est-à-dire que vous êtes d'accord avec Arnold et Albert, nos précédents auditeurs, qui disaient qu'il fallait dénoncer tout comportement suspect.
Oui, je suis d'accord. Il fallait tout dénoncer tout comportement suspect à la police. Mais en même temps, il y a comme une barrière entre cette police et la population parce que parfois la police se comporte pas bien envers la population. Donc je crois que ça crée un problème.
Merci, bienvenue. Amos est en ligne avec nous de région parisienne. Amos, bonjour.
Oui, bonjour Pierre.
Quelles sont les causes de ce recrutement massif des jeunes par Boko Haram, selon vous?
Oui, selon moi, je pense que quand vous arrivez dans ces régions-là, il y a deux principales choses qui vous frappent. C'est que dans les rues, lorsque vous voyez des petits garçons et des petites filles, les petits vendeurs, quand vous leur parlez en français, ils ne comprennent pas du tout ce que vous leur demandez. Ça veut dire qu'il y a déjà un problème d'éducation qui se pose. Et la deuxième chose qui vous frappe, c'est que il y a un taux de désœuvrement très élevé, c'est-à-dire que il y a rien à faire dans ces régions-là et les gens les grandes personnes et les enfants vadrouillent tout le long de la journée. Alors, je crois que le combat qui doit être mené, parce que c'est là le terreau de recrutement de Boko Haram. Les enfants qui n'ont pas été à l'école sont des objets et non des sujets. C'est-à-dire que qui ne peuvent pas avoir la lecture critique de ce que Boko Haram leur propose. Parce que lorsque Boko Haram recrute un enfant, ils lui font croire que, en fait, il est obligé d'accepter tout ce qu'on va lui proposer sans pouvoir analyser de façon critique.
On a bien compris votre point de vue, Amos. Merci beaucoup. Mais l'émission touche à sa fin. Merci à tous d'avoir participé à ce débat et rendez-vous demain pour une nouvelle émission.
C'était Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent.